Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
Messe pour la fête du baptême de Jésus ce dimanche dans la chapelle Sixtine. 20 nouveau-nés ont reçu le baptême des mains de Benoît XVI. Dans son homélie, le pape a demandé aux parents d'être les garants d'une éducation chrétienne. Un peu plus tard, lors de l'Angélus, Benoît XVI a souhaité une existence digne à tous les migrants et les réfugiés à l'occasion de la journée mondiale qui leur était consacrée. Nous parlerons aussi dans ce magazine de la manifestation des opposants au mariage pour tous en France. Une marche dans les rues de Paris qui a réuni des centaines de milliers de personnes, ainsi que dans d'autres villes étrangères. Avant de retrouver sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche, le secrétaire général de Caritas Internationalis, Michel Roy. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. Comme chaque année, une semaine après le dimanche de l'Épiphanie, Benoît XVI a présidé une messe dans la chapelle Sixtine. Une célébration au cours de laquelle 20 nouveau-nés ont reçu le baptême, 11 filles et 9 garçons, tous des enfants dont les parents travaillent au Vatican, à la radio ou encore au musée ou à la secrétaire d'État. Comme le veut la tradition, le père de chaque famille a prononcé à haute voix le nom de baptême de son enfant. Puis le pape a apposé le signe de croix sur le front du néo-baptisé. Dans son homélie, Benoît XVI a rappelé l'important devoir d'éducation des parents et des parrains et marraines. Le compte-rendu d'Olivier Tosserie.
Sachez offrir à vos enfants le bon exemple à travers l'exercice des vertus chrétiennes. Benoît XVI a invité ainsi la famille de chaque baptisé à faire grandir leurs enfants dans une amitié toujours plus profonde avec le Seigneur. La société d'aujourd'hui considère souvent comme démodée et en dehors du temps ceux qui vivent de la foi en Jésus, a expliqué le pape. Il a toutefois admis qu'il est difficile de manifester ouvertement et sans compromis ce à quoi l'on croit dans le contexte actuel. Benoît XVI a également mis en garde les fidèles. En suivant cette mentalité, il peut y avoir parmi les chrétiens le risque de vivre la relation avec Jésus comme une limite, comme quelque chose qui mortifie la réalisation personnelle. Au contraire, a insisté le pape, dans le chemin de foi, il existe l'action libératrice de l'amour de Dieu qui nous fait sortir de notre égoïsme, de notre repli sur soi, pour nous conduire à une vie pleine, en communion avec Dieu et ouverte aux autres. Benoît XVI a ainsi décrit la beauté de la foi, reçue comme un grand don que personne n'a mérité, mais qui nous a été donné gratuitement et auquel nous avons répondu oui.
Olivier Tosserie. Une matinée bien chargée pour Benoît XVI ce dimanche. Après la messe dans la chapelle Sixtine, le pape a récité la prière de l'Angélus depuis la fenêtre de ses appartements. Devant plusieurs milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre qui ont dû affronter la pluie ce dimanche, Benoît XVI a invité chacun à se remémorer son baptême. Cette renaissance spirituelle qui nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Commentant l'épisode du baptême de Jésus dans le Jourdain, le pape a expliqué que le Christ est l'homme qui, face au mal du monde, a choisi la voie de l'humilité et de la responsabilité. Il a choisi de ne pas se sauver lui-même, mais d'offrir sa propre vie pour la vérité et la justice. Le baptême reçu des mains de Jean-Baptiste, a ajouté le pape, marque le début de la vie publique du Christ et s'apparente à l'incarnation. Ce dimanche, on a célébré également la journée mondiale des migrants et des réfugiés. Cette année, dans son message, le pape a comparé les migrations à un pèlerinage de foi et d'espérance. Il a souhaité plus de solidarité pour ces personnes. Écoutez-le s'exprimer aux pèlerins francophones après la prière de l'Angélus.
Chers pèlerins francophones, la fête du baptême de Jésus nous fait souvenir de notre baptême. Ce jour-là, nous sommes devenus enfants de Dieu, appelés à être dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Pour chaque personne. Cette mission est importante alors que nous célébrons la Journée internationale des migrants et des réfugiés. Que partout, ces personnes puissent être accueillies et aidées pour qu'elles aient chacune, ainsi que leur famille, une existence digne. Comme Jésus, soyons proches de ceux qui souffrent et n'ont pas de voix pour se faire entendre. Il bénira chaque geste de charité.
Toujours ce dimanche, l'Angélus du Pape a connu quelques débordements. Quatre militantes du mouvement Femen se sont brièvement déshabillées place Saint-Pierre. Les quatre femmes s'étaient placées à côté de l'arbre de Noël. Dès que le pape est apparu à sa fenêtre pour l'Angélus, elles se sont mises torse nu en quelques secondes devant des fidèles plus qu'interloqués. Certaines brandissaient des pancartes sur lesquelles était inscrit en gros caractères « Tais-toi ». L'action n'a duré que quelques minutes. Elles ont été immédiatement interpellées par les forces de l'ordre. Le camp du non était dans la rue. Les opposants au mariage pour tous en France sont descendus dans les rues de la capitale ce dimanche. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté leur soutien au mouvement. À l'appel du collectif catholique Manif pour tous, les opposants au mariage homosexuel et à l'homoparentalité ont défilé dans trois cortèges avant de tous converger vers le Champ de Mars. Les organisateurs entendaient maintenir la pression sur le gouvernement alors que le Parlement va examiner à partir du 29 janvier le projet de loi. L'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, s'est félicité samedi que de nombreux catholiques se mobilisent contre le projet en assurant que ce n'était pas une manifestation de l'Église contre le gouvernement. Des manifestants qui venaient d'horizons très différents, c'est ce que nous expliquait le directeur général de Radio Notre-Dame, Bruno Courtois, que nous avons joint dimanche en fin d'après-midi.
De très 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 nombreux manifestants viennent d'horizons très différents. Et ça c'est assez frappant. Vous voyez, cet après-midi j'ai marché pendant un bon moment avec une délégation de musulmans des Hauts-de-Seine. Donc il y a effectivement beaucoup de gens assez différents et tout ça dans une ambiance particulièrement festive et détendue.
Quel est le but principal que se fixent les organisateurs de cette manifestation ?
Les organisateurs ont essayé de faire en sorte que ce soit la défense de la famille, et d'ailleurs la défense de la famille dans tous ses états. Saint Frigide Barjot l'a annoncé, ne serait-ce qu'en début de cortège. L'ensemble des organisateurs a défilé depuis le cortège d'Enfer Rochereau, avec bien sûr toutes les associations catholiques, mais aussi des délégations de juifs, de musulmans, la délégation d'homosexuels opposés au mariage. Enfin, il y avait tout un tas de personnalités très différentes. Et puis, dans des cortèges qui sont partis depuis la place d'Italie, comme depuis la porte Maillot, toujours à Paris, et bien là, il y avait certainement beaucoup plus de délégations politiques, des représentants, des élus, des anciens ministres, enfin, un certain nombre de personnalités.
Selon vous, cette manifestation, c'est juste une manifestation de témoignage ou vous pensez qu'elle va vraiment pouvoir peser, faire infléchir le gouvernement ?
L'ensemble des organisateurs demandent à la fois des états généraux et à la fois, pourquoi pas, un référendum. Alors, il est trop tôt, c'est évident que si vous demandez aux hommes politiques et toutes les interviews qu'on a, ou toutes les interventions qu'on a eues de la part des ministres et même du président de la République, on dit que de toute façon, la rue ne fera rien, mais on sait que si on a 500 000, 800 000, 1 million de personnes dans la rue, forcément, ça peut aussi avoir des répercussions. Donc, c'est encore un peu tôt pour le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait du monde aujourd'hui. Il y avait des gens qui arrivaient de tous horizons.
Est-ce que ce mouvement s'est enrichi au fil de la mobilisation ? Est-ce qu'il a pris des tournures différentes, des aspects différents avec ses différentes composantes ?
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que finalement, le profil des manifestants du mois de novembre a un peu évolué. On s'est aperçu qu'au mois de novembre, il y avait beaucoup de monde à Paris et beaucoup de monde dans les différentes villes de France. Mais c'était des gens, j'allais dire, qui sont un peu naturellement plus militants ou plus engagés. Alors que là, cette fois-ci, on s'est aperçu, moi j'ai parlé un petit peu avec les uns et les autres parmi les manifestants, beaucoup n'avaient pas manifesté au mois de novembre, beaucoup n'avaient même jamais manifesté. Donc si vous voulez, ce sont des gens qui sont souvent, qui ont été appelés par un certain bon sens, plus que par un sens politique ou un engagement quelconque.
Pour vous, cette manifestation, ce n'est pas une fin en soi, c'est un nouveau point de départ ?
L'ensemble des organisateurs, et Frigide Barjot la première, dit que c'est la première grande manifestation nationale, et il y en aura d'autres. Hein, parce que l'objectif, c'est quand même de faire changer les choses, c'est d'influer la vie politique et notamment ce projet de loi. Et donc ça veut dire que c'est la première grande manifestation. On restera à savoir si ça pourra continuer et monter en puissance tel qu'on l'a vu ces dernières semaines.
Bruno Courtois était interrogé par Olivier Tosserie. Un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. Cette manifestation a d'ailleurs pris une dimension internationale puisque des Français du monde entier se sont donné rendez-vous pour manifester, notamment à Londres, Bruxelles, Madrid, Barcelone, Washington, Jérusalem, Moscou, Tokyo ou encore Rome. Dans la capitale italienne, ils étaient plusieurs dizaines à s'être réunis devant l'ambassade de France, place Farnèse. Indépendant, apolitique et non confessionnel, un groupe de parents français a ainsi baptisé le mouvement « La Manif pour tous, Italie ». Selon les organisateurs, cette manifestation visait à défendre la famille naturelle composée d'un homme et d'une femme, la filiation naturelle et le droit des enfants à être éduqués par un père et une mère. Et retrouvons à présent Sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche. L'invité de ce dimanche est Michel Roy, l'actuel secrétaire général de Caritas Internationalis à Rome. Marié et père de deux enfants, Michel Roy a été directeur du service de plaidoyer international du Secours catholique, où il s'est spécialisé entre autres sur des dossiers relatifs à la gouvernance mondiale, au financement du développement et à la promotion de la paix. Il a été également l'un des quatre laïcs français nommés par Benoît XVI pour participer au synode des évêques qui s'est tenu à Rome en octobre 2012, un synode sur le thème « La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne ». Michel Roy revient sur son parcours au sein du Secours catholique, puis sur l'importance de Caritas Internationalis dans l'Église. Nous le retrouverons la semaine prochaine sur les défis de cette organisation mondiale caritative.
Michel Roy, vous êtes depuis plus d'un an secrétaire général de Caritas Internationalis. Vous-même, vous avez commencé en 1976, tout simplement comme bénévole. Quel souvenir vous avez de cette première année, ces années où vous étiez d'abord bénévole, puis ensuite salarié, puis ensuite vous êtes petit à petit, vous êtes entré complètement dans cette organisation?
J'ai connu le Secours catholique, je crois, avec la campagne des kilomètres de soleil. C'est une campagne d'éducation des jeunes enfants. Donc ça, c'était vraiment à l'école primaire. Mon engagement au Secours catholique en 1976 est dû à l'arrivée de réfugiés du sud-est asiatique. À partir, vous vous souvenez, avril 1975, la chute des trois pays qui formaient l'Indochine, donc Cambodge, Laos, Vietnam, et un flux massif de réfugiés, boat people, dans les pays de la région, et puis ensuite jusque chez nous. Et le Secours catholique avait lancé un appel pour créer un réseau de familles d'accueil, donc des groupes de familles qui accueillaient une famille asiatique. À Paris, où j'étais étudiant, il y avait un certain nombre de mineurs non accompagnés qui arrivaient. Et le Secours catholique avait lancé une activité d'enseignement du français avec ces jeunes, mais aussi des activités culturelles et de loisirs. Et donc, je me suis engagé comme bénévole dans un groupe qui s'appelait, que l'on a appelé Amitié, Joie, Partage. Et ce groupe, et c'est dans ce cadre de ce groupe, d'ailleurs, j'ai connu ma femme. Je suis parti au Burundi pour faire mon service national en coopération. C'était en 78 et j'en suis rentré en 80. Et j'ai fait cette expérience d'enseignement dans un petit séminaire qui venait d'être créé, tout à fait dans la campagne, très loin de la capitale. Et ça a été pour moi une expérience spirituelle très riche. Et quand je suis rentré du Burundi, j'ai voulu pouvoir redonner ce que j'avais reçu dans cette expérience. Et c'est comme ça que je suis rentré. Le Secours catholique délégation de Paris, donc au niveau du diocèse de Paris, m'a proposé un poste d'animateur tiers-monde, que j'ai accepté en pensant que j'y resterai quelques années, et puis voilà. Je pense qu'il faut être attentif aux signes qui sont posés par Dieu sur votre chemin. En regardant en arrière, on peut s'apercevoir qu'il y a eu des étapes. Et la dernière est sans doute celle qui m'a amené à Caritas Internationalis, puisque le président du Secours catholique, qui était le président du comité des candidatures pour l'Assemblée générale de mai 2011, m'a interpellé à la sortie de la chapelle du Secours catholique le mercredi des cendres, en me disant « Est-ce que tu accepterais d'être candidat à ce poste de secrétaire général ?» Bon, je n'ai pas répondu dans la seconde, mais enfin, j'ai considéré que c'était aussi un signe.
Michel Roy, quels sont vos challenges, vos défis pour les années qui viennent? Je crois que Caritas a de nombreux défis concernant la pauvreté. Vous pouvez nous en parler?
Oui, nous sommes dans une situation globale assez difficile, pour ne pas dire tragique. On voit dans nos sociétés du Nord combien le chômage croît et ce que ça entraîne comme pauvreté. Mais dans les sociétés du Sud, la crise globale La crise financière et économique globale a aussi un impact très fort qui est mal perçu au nord, mais qui est très réel au sud. Cette année va être une année un peu décisive, l'année 2013. Les États-Unis, temporairement, avec la décision du Congrès de dernière minute, a permis à Obama de se lancer dans le plan qu'il a décidé, mais on sent bien que c'est extrêmement fragile. Et puis, c'est in fine une décision à très court terme. Et il faut voir la décision qui sera prise un peu plus tard cette année. Au niveau de l'Union européenne, qui est l'autre gros pôle économique mondial, nous ne sommes pas sortis de la crise non plus. Le chômage s'accroît. Je pense que ça risque de nous conduire dans des situations très difficiles. Si ces deux pôles s'effondrent, c'est l'ensemble de l'économie planétaire qui va se retrouver à plat. Je pense que le système actuel, qui a été fortement remis en question par la crise de 2008, n'a pas changé. Et qu'on est sur une voie qui nous mène dans un mur. Et que ce qu'on appelle système néolibéral, de capitalisme néolibéral, va s'effondrer. Le résultat, on le voit déjà dans les couches les plus pauvres de la population et qui s'accroissent un peu partout sur la planète. Même les pays émergents souffrent indirectement puisque la consommation des produits que eux produisent de plus en plus au détriment des autres pays producteurs ne trouve plus d'acheteurs. Donc, une inquiétude sur l'avenir. On sait que la crise n'est pas qu'une crise financière, économique et financière, c'est une crise de système. Et qu'on parle aussi de crise éthique. Donc, il y a une opportunité qui nous est donnée, je pense, à nous, Église, à nous, Caritas, aussi, de montrer des chemins, de remettre le monde à l'endroit, parce qu'il est construit aujourd'hui sur de fausses valeurs. Et on oublie la personne humaine. La personne humaine est trop souvent utilisée. Mais d'une manière générale, on a des pays en Afrique en particulier qui sont très riches en ressources, avec des populations très pauvres. Et plus on exploite les ressources, et plus les populations sont appauvries. Donc ce système-là n'est pas un système qui permet le développement de la personne humaine. Il faut en changer. Mais on voit bien que les forces, les pouvoirs ne sont pas prêts à changer. Il faudra sans doute une crise plus forte pour qu'on repense à un autre modèle de société. On en voit déjà les prémices, parce que les communautés humaines, quand elles se prennent en charge, elles montrent le chemin. Donc on sait que c'est possible, on voit que c'est possible. Et créer un environnement porteur pour permettre à ces communautés humaines de vivre mieux, il faut le faire. C'est possible. Et il faut que l'industrie financière arrête de penser qu'elle peut naviguer toute seule comme ça, sur le dos des autres. Il faut qu'elle se remette au service du développement des personnes et des communautés humaines. Il y a un enjeu inscrit dans le calendrier qui est qu'en 2015, on arrive au terme des objectifs du millénaire pour le développement. En 2000, les chefs d'État et de gouvernement réunis en Assemblée générale des Nations Unies pour le sommet du millénaire avaient décidé que la pauvreté sur la planète était trop importante et que c'était inacceptable, scandaleux d'entrer dans le troisième millénaire avec une telle pauvreté et qu'il fallait la réduire au moins de moitié en 15 ans. C'était une belle déclaration avec des objectifs concrets, même s'ils ont été pensés en haut, ils n'ont pas associer les acteurs eux-mêmes. Ils ont été pensés, mais ils ont donné des orientations utiles, je dirais simples, et simples à réaliser aussi. On a vu que l'ensemble des pays pauvres de la planète se sont mis en ordre de bataille pour essayer de faire diminuer la pauvreté dans le champ de l'éducation, de la santé, de la production alimentaire, etc. Et on est sur le chemin. Il y a des progrès qui ont été faits, mais on est loin du compte aussi parce que le contexte global, en particulier la crise, fait qu'on recule parfois au lieu d'avancer. Il y a encore 1 milliard de personnes sur la planète qui ont faim aujourd'hui. On était à 850 millions en 2000, donc la population a grandi, mais la pauvreté s'est accrue aussi. Certains chiffres vous diront que grâce à la Chine, à l'Inde, au Brésil, on va y arriver, mais en réalité, je crois qu'on ne va pas y arriver, sauf sur certains objectifs un peu précis, comme l'éducation des filles. Mais globalement, la pauvreté sera encore là en 2015 et le défi, il est de se projeter au-delà de 2015 et de dire quelle société voulons-nous aujourd'hui, demain. Et la crise nous pousse aussi à cette réflexion. Quelle société voulons-nous? De quelle société avons-nous besoin pour que chacun et pour nous les plus pauvres, qui ne doivent pas être considérés comme étant aux marges de la société, mais au cœur de la société, parce que c'est en fonction de la considération accordée aux plus pauvres, de leur humanité, que l'on peut jauger la valeur d'une société. Donc, autour des plus pauvres, quelle société, et avec les plus pauvres, quelle société voulons-nous? Quelle société veulent-ils, eux, être à leur écoute pour construire des programmes de lutte contre la pauvreté pour demain?
Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis, était l'invité de Sœur Catherine Aubin. Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous retrouver sur internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à l'adresse Radio Vatican en français. On se retrouve demain, même lieu, même heure.